France Culture.
On fait le point sur l'information, c'est le journal de la rédaction avec Thomas Cluzel. Rebonjour Thomas.
Rebonjour Marie, bonjour à toutes et à tous. Au lendemain des critiques virulentes émises par le président américain contre les récentes attaques meurtrières de la Russie sur l'Ukraine, le Kremlin réplique ce matin en assurant que Vladimir Poutine défend la sécurité de son pays. Nous serons à Moscou dès le début de ce journal. On se rendra également à Jérusalem pour constater une nouvelle fois l'horreur de la guerre de représailles sans limite menée par Israël et de ses crimes perpétrés dans la bande de Gaza. Nous serons par ailleurs à Berlin après la condamnation ce matin de 4 dirigeants de Volkswagen. L'actualité en France, c'est notamment cette double bataille à la fois idéologique et tactique qui s'ouvre à l'Assemblée cet après-midi avec l'examen de la loi agricole sur la réintroduction de pesticides. Enfin, on reviendra sur la disparition ce week-end à l'âge de 97 ans de Marcel Ophuls, documentariste de légende dont le plus célèbre, Le chagrin et la pitié sur la France de Vichy, avait été interdit d'antenne pendant 10 ans. Le doute est-il encore permis quant à la détermination sans faille de Vladimir Poutine de mener jusqu'au bout, comprenez, jusqu'à la victoire totale, sa guerre impérialiste d'occupation en Ukraine. Tout le week-end, des déflagrations assourdissantes ont retenti sur l'ensemble du territoire. La capitale Kiev, notamment, a subi son raid aérien le plus violent depuis le début de la guerre. Et cette nuit encore, les forces de l'envahisseur russe ont lancé 355 drones, un record depuis 2022. Un week-end de terreur donc marqué toutefois par un nouvel échange de prisonniers et de corps de soldats morts au combat, soit le seul domaine en réalité dans lequel les deux ennemis en conflit coopèrent conformément aux pourparlers de paix qui se sont tenus en Turquie il y a 10 jours. Mais pour le reste, et plus que jamais, la guerre continue. Le bilan des attaques de ce week-end fait état d'au moins 13 morts et des dizaines de blessés. Poutine est devenu complètement fou, c'est même emporté Donald Trump sur son réseau social. Sylvain Tronchet, bonjour.
Bonjour Thomas.
Correspondant de France Culture à Moscou. Alors on savait déjà que la proximité affichée entre le président américain et son homologue russe était toujours heurtée à la réalité du champ de bataille. Malgré tout, faut-il en déduire, Sylvain, que le rapprochement entre les deux chefs d'État appartient désormais au passé ?
Eh bien, pas forcément, hein, si l'on en croit la réaction du Kremlin ce matin. Le porte-parole de la présidence russe met sur le compte de la surcharge émotionnelle les propos de Donald Trump. Nous sommes vraiment reconnaissants au président Trump pour son aide dans le processus de négociation, assure Dmitri Peskov, qui ajoute néanmoins, Vladimir Poutine prend les décisions qui sont nécessaires pour assurer la sécurité de notre pays. Pour le Kremlin, donc, les frappes massives de ces derniers jours ne sont qu'une réponse aux tentatives de Kiev de frapper le territoire russe, et comme toujours, Moscou ménage Donald Trump, qui est donc probablement le seul homme au monde à avoir le droit de qualifier de fou Vladimir Poutine, sans que cela ne déclenche la colère du Kremlin ou de la diplomatie russe. Dans l'esprit de Vladimir Poutine, en fait, la normalisation des relations avec les USA et le règlement de la crise ukrainienne sont deux sujets différents, parfaitement indépendants. Il continue donc sur cette ligne. Par ailleurs, la presse russe se montrait la semaine dernière très satisfaite que Donald Trump n'ait toujours pris aucune sanction à l'égard de la Russie, quand bien même il tense son homologue russe et l'accuse de gagner du temps. D'ailleurs, le Kremlin a encore dit aujourd'hui qu'aucune date n'était fixée pour un nouveau round de négociations avec l'Ukraine et que le travail d'élaboration du mémorandum promis par Moscou était toujours en cours.
Merci Sylvain Tronchet en direct de Moscou. Dans la bande de Gaza, là-bas, la population affamée et bombardée ne semble plus rien attendre que la mort, au point que là encore, même le président américain, pourtant principal soutien du gouvernement israélien, a déclaré qu'il espérait, je cite, « arrêter toute cette situation le plus vite possible ». Ce matin, au moins 52 personnes ont été tuées, dont 33 dans le bombardement d'une école qui abritait des centaines de déplacés, mais aussi des terroristes de premier plan, selon l'armée israélienne, qui justifie ainsi ces frappes meurtrière. Hier déjà, la défense civile avait déjà dénombré 22 morts, dont une femme enceinte et des enfants. Et puis la veille, c'est une pédiatre palestinienne qui a perdu 9 de ses 10 enfants dans le bombardement de sa maison. Alaa Al-Najjar n'a pu reconnaître les traits d'aucun d'entre eux parmi les minuscules silhouettes retrouvées recroquevillées, carbonisées et pour certaines démembrées. Thibault Lefèvre, bonjour.
Bonjour Thomas.
Correspondant de France Culture à Jérusalem, que sait-on exactement tout d'abord des circonstances de ce drame ?
Eh bien, la télévision israélienne n'en parle pas et ce n'est pas une surprise, l'essentiel des journaux non plus. Alors il faut aller chercher sur les chaînes palestiniennes ces images que vous avez décrites, ces images terrifiantes avec ces corps d'enfants carbonisés, certains démembrés, extirpés un à un des décombres. J'ai pu joindre tout à l'heure Anadi Al-Najjar, c'est la sœur du papa qui, comme son fils aîné, a été gravement blessé.
Jamais nous n'aurions imaginé qu'il puisse être ciblé, jamais. Mon frère est médecin, sa femme aussi. Ils donnent leur temps pour les autres. Même dans les moments les plus durs de la guerre, c'était impensable, tout simplement parce qu'ils sont docteurs.
Hamdi Al-Najjar, son fils Adam et donc la pédiatre Allah sont donc les trois rescapés d'une famille de 12 décimés en une seule frappe. Ils n'étaient, selon leurs proches, affiliés à aucun groupe politique.
Est-ce qu'au-delà des cris d'horreur entendus depuis la bande de Gaza, ce drame, Thibault, a aussi choqué en Israël ?
Oui, c'est rare, mais ces images ont en effet bouleversé des Israéliens, certains Israéliens, et notamment Yehuda Lankri. Il a été ambassadeur d'Israël en France, puis à l'ONU dans les années 90, et il est surtout membre du Likoud. Le Likoud, c'est le parti du Premier ministre Benjamin Netanyahou.
La mort de ces 900 Français est une tragédie indicible. Cet événement me retourne affectivement, c'est-à-dire que il m'est impossible de le contenir. Cette tragédie devrait être la fin de la guerre. Il faut qu'il faille en tirer les conséquences.
Arrêter la guerre, donc, et mettre fin, selon l'ancien ambassadeur, à la dérive d'un gouvernement pris en otage par une minorité d'extrême droite messianique très influente.
Merci Thibault Lefebvre en direct de Jérusalem.
Emmanuel Macron est arrivé hier soir accompagné de son épouse à Hanoï.
Première étape d'une tournée en Asie du Sud-Est qui doit le conduire ensuite en Indonésie puis à Singapour. L'occasion pour le chef de l'État de vanter et surtout de tester sa stratégie indo-pacifique consistant à offrir une troisième voie aux pays de la région vulnérable à la montée des frictions commerciales entre les États-Unis et la Chine. C'est tout particulièrement vrai d'ailleurs au Vietnam, pris en tenaille entre Washington, donc d'un côté, qui menace d'imposer une surtaxe prohibitive et son allié historique de l'autre, Pékin, avec lequel Hanoï partage pourtant plusieurs différents territoriaux en mer de Chine méridionale. Au même moment, les dirigeants du bloc d'Asie du Sud-Est, ASEAN, se réuniront eux en sommet à Kuala Lumpur où il devrait être là encore largement question de la politique agressive des droits de douane initiée par Donald Trump. Enfin, après avoir menacé, c'était vendredi dernier, d'imposer des droits de douane de 50% sur les importations en provenance des 27, le président américain et la présidente de la Commission européenne se sont finalement mis d'accord hier pour prolonger jusqu'au 9 juillet la trêve en vigueur dans la guerre tarifaire sur leurs importations respectives.
En Allemagne, la justice a condamné ce matin 4 anciens dirigeants de Volkswagen à des peines de prison.
Tous étaient accusés de fraude en bande organisée dans le fameux scandale du Dieselgate, cette affaire éclatée il y a 10 ans déjà après que le constructeur automobile allemand avait reconnu avoir triché pour fausser les résultats de tests anti-pollution. Sébastien Bayard, bonjour.
Bonjour Thomas, bonjour à tous.
Correspondant de France Culture à Berlin, les prévenus ont donc tous été reconnus coupables dans cette affaire qui aura décidément et largement, Sébastien, entaché la réputation de Volkswagen.
Oui, 4 ans et demi de prison, la peine la plus lourde contre le responsable du développement des moteurs diesel. 2 ans et 7 mois ferme pour un autre. Les deux derniers prévenus écopent de peine avec sursis. Le procès s'est étalé sur 4 années, 174 jours d'audience, 150 témoins et un acte d'accusation de 400 pages. Au cours des débats, les anciens dirigeants qui se sont présentés comme des boucs émissaires se sont renvoyés la faute. Mais pour le tribunal, leur responsabilité ne fait pas de doute. Ils ont participé à la fraude. Ils ont manipulé le logiciel qui a permis de falsifier les tests anti-pollution et de les rendre conformes aux normes. En réalité, les moteurs diesel émettaient jusqu'à 40 fois la quantité autorisée de dioxyde d'azote. La tricherie aura duré 6 longues années. En 2015, Volkswagen a reconnu avoir truqué 11 millions de véhicules, ce qui a plongé le groupe dans la plus grave crise de son histoire. L'entreprise a dû indemniser 250 000 clients. L'affaire lui a déjà coûté 33 milliards d'euros et elle n'est pas terminée, car les débats se sont déroulés sans le principal protagoniste, l'ancien patron de Volkswagen, Martin Winterkorn. L'homme âgé de 78 ans souffre de problèmes de santé et son procès a dû être suspendu. 4 autres procédures sont aussi en cours contre des ingénieurs, des cadres. Elles visent au total 31 ex-salariés de Volkswagen, rappelons-le, le premier constructeur automobile européen.
Merci Sébastien Baer en direct de Berlin.
Midi passé de 39 minutes sur France Culture, la suite de votre journal Thomas Cluzel.
Jusqu'à quel point la proposition de loi dite Duplon visant à lever les contraintes des agriculteurs au prix de plusieurs reculs environnementaux va-t-elle semer les graines de la discorde? Le texte arrive aujourd'hui à l'Assemblée dans un hémicycle divisé et sous la pression des principaux intéressés dont certains sont même venus garer leur tracteur directement en face du Palais Bourbon, manière de faire monter un peu plus la pression. Alors on va détailler avec notre inviter les contours de ce texte et ses mesures les plus controversées, en particulier la réintroduction de pesticides néonicotinoïdes. Mais avant cela, première précision sur le scénario ô combien singulier qui pourrait s'écrire dès cet après-midi à l'Assemblée, puisque cette première séance d'examen pourrait aussi bien être la dernière. Stéphane Robert, bonjour.
Bonjour Thomas.
Pour échapper à un débat ralenti par des centaines et même des milliers d'amendements, les partisans de cette proposition de loi envisageraient de court-circuiter la procédure en votant une motion de rejet, évidemment uniquement tactique. En clair, cela permettrait, Stéphane, de sauter la case Assemblée pour arriver directement en commission mixte paritaire.
Oui, la procédure est inhabituelle et a de quoi surprendre puisque ce sont les promoteurs de la proposition de loi qui demandent son rejet. La motion a été déposée par le député Les Républicains du département de l'Aisne, Julien Dive, rapporteur du texte de loi. Il justifie cette motion de rejet préalable par l'obstruction parlementaire dont fait l'objet la proposition de loi. 3500 amendements ont été déposés, dont 2400 par les seuls députés écologistes et insoumis. Et il estime que l'Assemblée nationale n'aura pas le temps d'arriver au terme de l'examen du texte. Par conséquent, explique-t-il, l'avantage de la motion serait d'éviter d'interminables débats et de renvoyer directement le texte en commission mixte paritaire. À ce moment-là, 7 députés et 7 sénateurs essaieraient de trouver un accord en repartant du texte adopté en début d'année par le Sénat. Dans ces conditions, il est fort probable qu'un accord serait trouvé. La proposition de loi reviendrait alors devant chaque assemblée pour validation définitive. C'est précisément ce qui s'était passé avec la loi immigration en décembre 2023. À cette différence près qu'à l'époque, le rejet préalable avait été adopté à la surprise générale, le Rassemblement national ayant ajouté ses voix à celles de la gauche. Aujourd'hui, le Rassemblement national s'apprête encore une fois à voter cette nouvelle motion, mais en s'associant cette fois au socle commun, Renaissance, Horizon, le Modem et la droite républicaine, au nom de la défense du monde agricole. C'est en tout cas ce qu'a laissé entendre le député du Rassemblement national, Sébastien Chenu, un proche de Marine Le Pen, hier sur France 3, indiquant que leur intention allait plutôt dans ce sens. La procédure est également soutenue par le gouvernement, notamment la ministre de l'Agriculture, très favorable à cette loi Duplon visant à lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur.
Merci Stéphane Robert. Et pour évoquer à présent les points les plus brûlants donc de cette proposition de loi, invitée de la rédaction, Blandine Ménel, maîtresse de conférence en sciences politiques à l'université Panthéon-Assas. Bonjour madame. Tout d'abord, s'agissant du texte en lui-même, la FNSEA dénonce aujourd'hui un détricotage par rapport à ce qui avait été voté donc par le Sénat. Est-ce que c'est véritablement le cas, ou bien est-ce que les propositions du texte qui avaient alarmé les associations de défense de l'environnement ont été effectivement profondément modifiées pour leur arrivée à l'Assemblée?
Oui, alors votre journaliste l'a bien rappelé, les députés en commission ont supprimé, les députés ont déposé plusieurs milliers d'amendements, ils ont en commission supprimé certaines mesures qui étaient présentées comme importantes pour faciliter notamment les projets de stockage d'eau. Malgré cela, il y a quand même un certain nombre d'articles et de mesures importantes qui restent présentes, et vous l'avez bien dit, la réautorisation partielle d'un insecticide, donc l'acétamipride, pour une durée limitée. Ce qui est important, en fait, on peut comprendre la déception donc des porteurs de cette proposition de loi et du gouvernement qui soutient activement le passage de cette loi. Ce qui est important, après ces analyses anecdotiques, c'est aussi que, en fait, la portée symbolique de la loi, elle reste entière pour le syndicalisme majoritaire, notamment pour la FNSEA et les jeunes agriculteurs qui cherchent, à travers la mobilisation d'aujourd'hui autour de cette loi et des dernières semaines, à réaffirmer leur capacité à co-construire les politiques agricoles, à être écoutés du pouvoir politique en place, aussi à mettre fin à la séquence des mobilisations agricoles qui dure depuis 18 mois et qui a en partie ébranlé la capacité de la FNSEA, les jeunes agriculteurs, à représenter pleinement, à mobiliser pleinement la profession.
La FNSEA, hein, dont la domination s'est légèrement réduite sur les chambres d'agriculture aux dernières élections. Même s'il ne faut évidemment pas sous-estimer aujourd'hui les reculs que propose ce texte, donc sur un certain nombre de questions environnementales, ses effets matériels pour les agriculteurs seront relativement marginaux ou bien seulement limités à quelques branches spécifiques. Comment expliquez-vous ce contraste donc entre d'un côté des enjeux symboliques qui se nouent autour de cette proposition, puis de l'autre la portée au fond assez limitée de ces propositions?
Effectivement, les effets concrets de cette proposition de loi et de son contenu sur le quotidien de la plupart des agriculteurs, on peut considérer qu'ils vont être assez marginaux, comme vous l'avez dit. Ce qui est important, et en fait la valeur symbolique de cette proposition de loi, elle est certainement dans la volonté qu'il y a d'entériner, dans la continuité de la loi d'orientation agricole qui a été votée plus tôt cette année, hein, le fait que l'impératif de verdissement ou d'écologisation de l'agriculture soit secondaire, hein, occupe une place secondaire par rapport à celui de production et de productivité, au nom de cette fameuse souveraineté alimentaire, hein, qui est mise sur le devant de la scène. La mobilisation, elle est forte aussi autour de cet enjeu de la complexité administrative, autour de cet enjeu de demande de simplification administrative, de simplification des normes, parce que c'est un enjeu qui fédère, c'est un enjeu qui est important pour les syndicats agricoles, parce que c'est un enjeu sur lequel il reste possible, facile de mobiliser une part importante de la profession.
Pour autant,
et c'est un des derniers rares mots d'ordre qui permet de rassembler une base large, hein, dans un contexte d'éclatement des mondes agricoles et donc des besoins et des contraintes ressenties par chaque agriculteur.
Une dernière question en quelques mots. Est-ce que sur le fond, cette loi du plomb donc est susceptible de mettre fin au malaise agricole qui s'est exprimé en début d'année dernière?
Alors non, pas vraiment, hein. Je ne crois pas, parce que les difficultés des agriculteurs ne viennent pas que des normes et de la bureaucratie environnementale. Il y a aussi une préoccupation très forte qui a été ressortie ces 18 derniers mois autour du revenu agricole et du partage de la valeur en agriculture, mais c'est plus difficile de rassembler sur cette question du revenu, parce que les situations concrètes, les problèmes rencontrés sont assez disparates, hein. Et puis la crise agricole, elle prend aussi racine dans un sentiment important d'abandon de la profession, associé à des difficultés à se projeter dans l'avenir, hein, et ça renvoie à un problème plus large de considération et de représentation de la profession agricole, donc qui se sent mal représentée à la fois par ses syndicats, mais aussi mal considérée par les consommateurs, par les riverains et par le reste de la société. De ce point de vue, est-ce que la simplification et l'assouplissement des normes environnementales pourraient être une solution à ce sentiment de malaise lié à une forme de mauvaise représentation? On peut dire que ça peut peut-être même empirer les choses, hein, puisque en fait, on assiste aussi à travers cette séquence à un recloisonnement de la profession agricole sur elle-même, hein, qui entend quelque part reprendre la main sur les politiques agricoles à
c'est
venir
bien compris.
Et sur les décisions à venir.
Et on terminera par ces mots. Merci Blandine Menel, maîtresse de conférence donc en sciences politiques à l'Université Panthéon-Assas, d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à Louise Guérin pour la préparation.
On l'a appris hier, la mort samedi de Marcel Ophuls à l'âge de 97 ans.
Oui, fils du cinéaste Max Ophuls. Il s'était notamment imposé dans le documentaire en renouvelant à la fois la technique de l'interview, mais aussi celle du montage. Et puis surtout, il s'était fait un nom et plus encore un prénom, donc avec Le Chagrin et la Pitié, un documentaire tourné en 1969 au succès, disons, encombrant. Chloé Leprince, bonjour.
Bonjour.
À l'époque, le film sera vendu comme une leçon d'histoire et force est de constater, Chloé, qu'il aura eu un destin pour le moins contrarié et polémique.
Oui, une leçon d'histoire, c'était écrit sur l'affiche. Alors, effectivement, Marcel Ophuls, c'est le fils de son père, Max, mais jusqu'à ce tournage de 1969, Ophuls suisse n'est pas exactement un cinéaste de premier plan. Sa notoriété arrive avec Le Scandale. Son film, distribué par Louis Malle et son frère, a une sortie contrariée en 1971. Il faut prendre la mesure de la déflagration. À l'époque, ce qui prime, c'est la politique de réconciliation voulue par De Gaulle. Plutôt qu'une réflexivité lucide dans les années 60, le grand récit dominant, c'est l'homme à la résistance, à l'héroïsme des Français, au juste entre les nations et de la collaboration de Vichy qui n'a pas représenté un moindre mal face à Hitler mais activement collaboré. Eh bien, on ne parle pas vraiment. C'est ce silence ourlé d'un chouïa d'autocongratulation que Le Chagrin et la Pitié entend percer, quitte à déplaire, y compris parmi les rescapés de la déportation. La résistante Germaine Tillon critique le film qui manquerait de nuances. Simone Veil, quant à elle, bataille des années durant pour interdire sa diffusion à la télévision. Veil siégeait au Conseil conseil d'administration de l'ORTF. Simone Veil lui reprochait de noircir le tableau, de faire passer tous les Français pour des salauds antisémites. D'autres accuseront Ophuls d'euphémiser la résistance française, d'en minimiser les chiffres comme les faits d'armes.
Et il faudra donc attendre 10 longues années, Chloé, pour que l'ORTF décide finalement de programmer le film. C'était en 1981.
Oui, et malgré un lancement confidentiel, le film avait fini par faire 600 000 entrées au cinéma, bon an, mal an, au bout de 2 ans. Entre-temps, les Français avaient découvert la série Holocauste. Et ce que l'historien Pierre Laborie, grand spécialiste de l'opinion publique sous Vichy, appellera une censure par inertie, ça avait fini par lâcher. C'était un vrai virage. Il faut se souvenir qu'à l'époque, De Gaulle pouvait dire, par exemple, que la France n'avait pas tant besoin de vérité que d'espoir. Et il faudra attendre Chirac pour voir reconnaître officiellement le rôle de la police française dans la Shoah. Ça fera 30 ans cet été. Mais la presse salue pourtant à l'époque le film qui enfonce des œillères, mais à quel prix? On oubliera souvent au passage de mentionner par exemple un chiffre, 75% des Juifs de France ont malgré tout survécu à la guerre. Ça laissera la trace d'un film fragile mais qui a changé le regard de la France sur elle-même.
Merci Chloé Le Prince. On termine avec un mot du temps pour cet après-midi. Menaçant de la Bretagne à la Normandie ainsi que sur les reliefs, variables partout ailleurs quant aux températures, elles seront comprises entre 15 et 27 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Nicolas Pommet et à 18h vous avez rendez-vous avec Aurélie qui fait pour le prochain journal de la rédaction.